La première, podcast.
Destination ailleurs.
Benjamin Leupart.
Bel après-midi sur la première. Ravi une fois encore de partir en voyage malgré le petit rayon de soleil sur la Belgique. Destination ailleurs suit d'ordinaire un guide. Aujourd'hui, on suit un couple de guides pour apprendre à voyager à deux. Ils sont deux, il pourrait donc y avoir deux fois plus d'objets sur la table de Destination ailleurs, des objets importants pour leur voyage et que vous pourrez retrouver sur la page de l'émission en suivant amoureusement le webchemin rtbf.be/la-première. Un clic sur la carte géographique et c'est le déclic. Tout un carnet de voyage vous remplira les mirettes. Et puis, Destination ailleurs s'immerge en musique dans l'ambiance du pays de nos hôtes. On les imagine gentiment, s'enguirlander au son de la musique et avant leur départ, alors qu'ils préparaient leurs bagages. Et on écoutera également la musique qu'ils avaient dans les oreilles une fois sur place. Le bout du monde serait-il encore plus beau à deux? On va le savoir tout de suite dans Destination ailleurs sur la première. Cap au sud-ouest, décollage.
Latitude 12 degrés sud, longitude 77 degrés ouest.
Main dans la main, vous pénétrez dans le royaume des Incas, une terre de légendes et de trésors, l'Eldorado mythique qui a attiré le conquistador Francisco Pizarro, le Pérou. Suite à l'invasion espagnole, la lutte a été longue et a connu de nombreux rebondissements pour que le pays obtienne son indépendance. Aujourd'hui, la richesse culturelle est toujours bien présente et vous pourrez encore assister aux fêtes et aux cérémonies mêlant les croyances catholiques et les anciens rites précolombiens. Au Pérou, trois régions bien différentes s'opposent. La côte, les Andes et la forêt amazonienne. Pour un bain de soleil en amoureux, vous trouverez les stations balnéaires au nord du pays. Juste à côté, les Andes offrent des sommets à plus de 6000 mètres. Gare au mal de l'altitude, mais ne vous privez pas du chemin de l'Inca. Une randonnée de plusieurs jours pour accéder à l'ancienne cité si longtemps cachée au cœur de la nature, le Machu Picchu. Et avant de repartir, pensez à offrir à l'élu de votre cœur un indémodable bonnet péruvien en laine d'Inca. Alpaga.
Vous êtes arrivé à destination.
Et nous arrivons au Pérou. C'est un couple de guides amoureux qui nous montre le chemin cet après-midi dans Destination ailleurs. Et ce couple, c'est vous, Amandine et François. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Amandine, vous bossez dans le management et vous, François, vous bossez dans l'informatique. Cet après-midi, on replonge dans vos deux voyages en fait au Pérou, celui d'abord de 2009. Amandine, vous étiez jeune diplômée en management précisément et vous rêviez d'Amérique latine. Et vous, François, vous veniez de terminer un contrat, un boulot quoi, en informatique et vous aviez très très envie de découvrir cette partie du monde. Vous veniez de tomber amoureux, c'est bien ça, et vous étiez libre tous les deux, formidable. Quel était le concept de ce voyage en duo?
Il n'y avait pas un grand concept à la base. Le plus important pour
le
nous,
plus d'envie
c'était...
Que de concept.
Voilà, c'était de partir en Amérique latine. J'en rêvais depuis des années et François a tout à fait embrayé pour ce projet-là. Donc voilà, le seul concept c'était quand on n'a plus d'argent, on rentre. On n'avait pas d'itinéraire.
Et... pas mal, ouais. C'est comme concept.
Oh, oui.
Très très bien. Vous avez quand même pas mal préparé hein, ce voyage, vous, Amandine, puisque vous avez carrément appris l'espagnol pour ce faire.
Tout à fait. Ma dernière année à l'université, c'était mon plus gros cours, donc j'avais vraiment pas intérêt à le rater.
Alors que vous, François, vous trichez énormément, puisque vous êtes espagnol d'origine.
C'est un peu plus facile pour moi, en effet.
Donc vous parlez espagnol à la base, oui. Et c'est cette clé, la langue, va vous permettre de découvrir un Pérou moins connu que la plupart des voyageurs ne l'ont en tête d'ailleurs. Alors, tant qu'on n'est pas fauché, on continue le voyage. Ça veut dire qu'avant, il y avait d'autres pays. Vous arrivez en 2009, alors que vous étiez au Chili. Vous arrivez un petit peu dans un sale état, Amandine, au Pérou.
Oui, mais je suis restée, donc avant d'arriver au Chili, un mois en Bolivie. Et voilà, je suis ressortie de la Bolivie avec quelques séquelles, on va dire. Et donc, je suis restée au Chili, presque hospitalisée, enfin, en tout cas dans ma chambre pendant quelques temps. Et d'ailleurs, le médecin qui me suivait voulait me rapatrier en Belgique. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer le voyage. Et donc, quand on est arrivé à vouloir passer un an du Chili vers le Pérou, on a dû un petit peu presser le pas. Car la seule impérative horaire qu'on avait de notre timing en voyage, c'était d'arriver à temps pour notre avion pour les Galapagos en Équateur.
C'est ça, François. Donc, en fait, vous allez faire le Pérou du sud au nord, alors que généralement, les gens font plutôt la boucle Lima, Cusco, Machu Picchu et autres. Et donc, vous, pas du tout. Vous allez remonter le pays, en quelque sorte.
Voilà, donc en fait, on a pris directement un avion depuis le nord du Chili pour arriver dans le nord du Pérou. On a fait un petit saut de puce de quelques milliers de kilomètres. Ça a déjà été catastrophique. On a commencé par prendre l'avion jusqu'à Lima depuis Chili. Ça allait très bien. Puis après, on a pris un autre avion qui allait jusqu'à Trujillo, dans le nord. Sauf qu'on est arrivé un jour de tempête, l'avion a essayé d'atterrir de nuit avec la tempête, ça a été une catastrophe, il a essayé une fois d'atterrir, il a essayé deux fois d'atterrir, il a essayé trois fois d'atterrir.
Ça met toujours une bonne ambiance.
Il est retourné à Lima et on a dû attendre toute la, passer la nuit complète et attendre le lendemain un nouvel avion qui cette fois-ci s'est posé sans trop de problèmes.
D'accord. Vous avez élaboré un premier blog lors de ce voyage en 2009. C'était un blog très perso, plutôt pour les proches. Et dans votre second voyage, celui dont on parlera tout à l'heure, vous avez abordé le Pérou selon un angle plus large qui peut concerner un plus large public. Alors, justement, voyager en couple, est-ce que c'est facile au Pérou et est-ce que c'est facile tout court ? Voyager en couple ?
Mais pour nous, ça ne nous a jamais posé de soucis. Mais c'est vrai que souvent, j'avais le regard des gens passer 24 heures sur 24 ensemble, non-stop, ça doit être un vrai cauchemar. En plus, pendant plusieurs mois, c'était juste inconcevable pour pas mal de gens. Donc voilà, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être quelque chose qui pouvait préoccuper pas mal de personnes. Et effectivement, beaucoup se posent la question. Certains envisagent aussi le voyage comme un test pour leur couple. Si ça passe, tant mieux, sinon ça casse. Donc voilà.
D'accord. Vous avez des profils différents, mais vous avez une passion commune, c'est l'architecture, non plutôt l'archéologie. Et il y a sur la table de Destination Ailleurs différents objets, et parmi lesquels il y a une poterie d'une civilisation qui va vous fasciner. Et c'est une civilisation que vous avez retrouvée au sud du Pérou. Au nord, c'est au nord, pardon, puisque oui, on vient de l'expliquer que vous avez parcouru le pays du sud au nord. Et est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà ?
Ah oui, tout à fait. Donc la première poterie, c'est une poterie Moche. Donc c'est une civilisation qui nous a beaucoup parlé quand on est arrivé là-bas. Mais déjà qu'on est arrivé au Pérou, on ne connaissait que la civilisation Inca, parce que c'est toujours de celle-là dont on parle. Et on a découvert qu'il y avait finalement plein de civilisations pré-Inca qui étaient tout aussi intéressantes de voir plus encore. Donc la civilisation Moche, c'était vraiment notre grand coup de cœur.
D'accord. Cette poterie, elle ressemble un petit peu, comment vous dire, à une gourde avec une espèce de grande anse qui finit par un goulot. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, François ?
Toutes sortes de liquides, parce que de toute façon, on ne peut mettre grand-chose d'autre que du liquide dedans, je pense, c'est difficile.
Vu sa forme, ces objets, on les retrouvera en images sur la page de l'émission via le site de l'RTBF. Vous comprendrez pourquoi c'est un peu compliqué de s'imaginer ce qu'on peut mettre dedans. Mais il y a aussi la façon dont cet objet est peint.
Oui, je ne sais plus comment il est peint exactement, mais il est de manière bicolore.
Oui, les tons crème et rouge, c'est vraiment très typique des poteries Moche avec des tons très doux, alors que les poteries Inca vont avoir des motifs beaucoup plus géométriques et avec des couleurs beaucoup plus dures. Donc ça, c'est vraiment
mais plus chatoyantes aussi. Donc ici, ça a l'air terne comme ça, mais en fait, finalement, c'est doux. Voilà.
Alors, cet objet, vous l'avez acquis d'un commun accord ou bien ça a été le fruit d'une âpre négociation ?
On s'est un peu disputé parce qu'on était sur un long voyage, comme on expliquait tout à l'heure, et donc il fallait porter ça après. Ça prenait de la place et du poids. Donc,
et puis, ça a l'air fragile.
Non, ça par contre, on peut y aller. On peut taper dessus, ça ne casse pas, c'est vraiment très très solide. On a d'ailleurs cette civilisation à plusieurs centaines, même plus de 1000 ans. On trouve des céramiques comme ça intactes par milliers, vraiment par milliers.
D'accord. Ok, très bien. Il y a d'autres objets, donc on abordera différents objets de votre parcours au Pérou en 2009 et puis celui de 2013. Musique encore cette fois, musique de François de Roubaix, qu'on écoutera tout à l'heure aussi. C'est ce qu'on entend là derrière moi, c'est la musique qu'il y avait lorsque vous prépariez vos voyages. Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors c'est Chaka Idres qui chante Metaloid, qui est une chanson vraiment pour nous particulière, pour François surtout, mais ici la chanson au niveau thématique, c'est contre la violence, contre les enfants et contre les femmes.
Il y a une autre musique que vous aviez dans les oreilles, celle de votre voyage, celle que vous avez découverte une fois sur place, et ça c'est plutôt ceci. Pachamama. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, on se regarde avec étonnement parce que c'est pas la même version qu'on avait entendue quand on était au Pérou. Mais donc Pachamama, la terre-mère, c'est une grande symbolique au niveau de la philosophie, la spiritualité andine.
D'accord, donc on est sur l'archéologie et la spiritualité cet après-midi dans Destination Ailleurs. On va poursuivre notre voyage au Pérou avec Amandine et François cet après-midi qui vont nous livrer quelques coups de cœur. Ce sera juste après ceci.
Destination Ailleurs.
de 15 à 16 heures sur la première.
Amandine et François nous font le plaisir de nous emmener au Pérou cet après-midi dans Destination Ailleurs. Après un premier voyage de fin d'études pour vous Amandine et de fin de job d'IT comme on dit, d'informatique donc pour vous François, vous vous offrez une grosse part d'Amérique latine hein, pendant 6 mois, ça c'est en 2009, et vous allez y retourner parce que vous tombez amoureux du pays. Mais alors qu'est-ce qui vous fait craquer particulièrement là-bas puisqu'on va parler de vos coups de cœur ?
Alors, mes premiers voyages, c'était donc dans le nord du pays. On découvre la civilisation Moche ou Mochica. On en parlait précédemment pour la poterie, mais c'est aussi des pyramides. On ne s'attend pas du tout. On découvre des pyramides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages, même plus. Et des dizaines de pyramides Moche à perte de vue dans la jungle, encore à découvrir, à fouiller.
C'est un peu le paradis de l'archéologue en herbe.
Le Disneyland de l'archéologie,
ça veut dire quoi ?
C'est qu'il y a un nombre incalculable de sites archéologiques à fouiller, de types complètement différents. Il y a actuellement des nombres 25 civilisations, grandes civilisations différentes sur différentes époques au Pérou. C'est différents milieux pour chercher aussi ces sites. C'est aussi bien sur la côte que dans le désert, que dans la... en montagne ou en Amazonie.
Ça, vous dites François qu'on parle beaucoup des Incas parce que c'est la civilisation la plus connue, mais ce n'est que la pointe, pour parler de la pyramide, il y a tout le soubassement, il y a toute la pyramide elle-même, et ça représente 25 pyramides différentes, c'est 25 ça, étages, pardon, différents.
C'est ça, en quelque sorte, les Incas sont en fait une entre guillemets, rapide, courte, petite civilisation qui en fait qui a pris le meilleur de chacune des civilisations pour en faire le maximum.
D'accord. Ok. Et à propos d'archéologie, il y a une belle histoire qui vous est arrivée. C'est une rencontre lors de votre premier voyage. Vous êtes arrivé dans la ville de Siclayo et ça s'est mal passé hein, parce que c'était un peu un jour de tempête. Mais vous rencontrez un archéologue justement qui vous fait un petit cadeau.
Oui, tout à fait. Donc à Siclayo, on a décidé d'en apprendre plus sur ces civilisations et donc de visiter les musées sur place. Et on a insisté pour avoir un groupe en espagnol et on a bien fait parce qu'on est tombé sur un archéologue. En fait, là-bas, les archéologues font mi-temps archéologue et pendant la saison des pluies, guide touristique.
D'accord.
Donc là-bas, la situation de guide est vraiment très valorisée. En fait, c'est un titre vraiment bien vu.
Assez honorifique en quelque sorte. Oui. En fait, on est le guide et celui qui communique avec les étrangers, qui représente son pays.
Sa culture et son histoire.
Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un poste hyper important et qui est très bien vu dans ce genre de pays.
D'accord.
Et donc ce guide nous amène dans ce musée et pas de chance, avec la tempête de la veille, plus d'électricité. Donc avec un archéologue, on a visité un musée à la lampe torche. Donc au niveau ambiance, c'était parfait.
Indiana Jones.
Donc. Voilà, tout à fait.
Et est-ce que c'est là que vous avez découvert l'autre civilisation qui vous fascine, la civilisation Nazca ?
C'était pas cette fois-là, parce qu'effectivement, le musée était vraiment centré sur les civilisations du Nord. Mais oui, les Nazca, on les a découverts davantage dans notre deuxième voyage, donc en 2013.
D'accord.
Et là, c'était notre vraiment coup de cœur.
D'où la présence d'une seconde poterie sur notre table de destination ailleurs. Alors, c'est quoi ? Ça ressemble à une tirelire. Et c'est beaucoup plus coloré que la première.
Oui, tout à fait. Effectivement, ça ressemble à une tirelire. Je ne sais même pas ce qu'on pourrait mettre dedans, à part effectivement des pièces, des bits.
Ou des bagues.
Oui,
si on aime beaucoup le sel.
Beaucoup de sel.
Parce que l'ouverture est quand même très très large pour une tirelire. Et pour une salière.
Oui, cette poterie, effectivement, les Nazca, c'est beaucoup plus coloré. Les motifs sont déjà un peu plus proches de ceux des Incas, plus, on va dire, au niveau des traits. Et donc, la civilisation Nazca, on la connaît surtout pour les lignes de Nazca.
Il faut savoir qu'il y a un objet qui n'est pas sur la table de destination ailleurs, mais sur le dos de François, c'est son t-shirt. Alors, c'est un t-shirt tout bleu et il est écrit en blanc Pérou, mais sur la lettre... de Pérou, il y a des lignes un peu concentriques comme ça qui forment comme une spirale et ça ce sont les fameuses lignes qu'on peut voir depuis le ciel.
Tout à fait.
Mais ça vous les avez pas vues vous ?
Si, on a été les voir aussi. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais le collier que j'ai sur moi c'est une des lignes Nazca, c'est le singe. Donc oui, on a été les survoler. François même était malade dans l'avion, mais ça c'est...
J'ai tout gardé à l'intérieur, je précise.
Très bien, donc ce sont des espèces de décorations du désert en forme géométrique ou qui représentent des animaux. hein, et qu'on peut lire depuis le ciel parce qu'elles sont vraiment monumentales.
C'est exactement. Il y a moyen de les voir depuis le sol, depuis un petit promontoire, mais ce sont vraiment des tout petits dessins et on ne voit pas grand-chose. Si vous allez là-bas, il ne faut pas hésiter, ça coûte cher, mais prenez l'avion, sinon on ne voit vraiment rien.
D'accord, c'est un désert tout rouge à la base et en déplaçant les pierres, les Nazca ont fait apparaître la couche plus claire du sol et donc ils ont pu dessiner comme des géants. C'est beau ça ?
Magnifique. Et c'est vraiment étonnant de voir qu'elle se voit toujours de nos jours. Donc, au niveau technique, c'est assez impressionnant aussi.
D'accord. Les Nazca, donc une civilisation bien plus importante dans le temps aussi que les Incas.
Oui, et c'est une civilisation qui a duré à peu près 800 ans. Donc c'est assez 8 siècles quand même. Mais à la limite, les lignes Nazca, c'est presque rien par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ont réussi à vivre dans le désert, un des déserts les plus arides du monde.
Oui, c'est à cheval sur l'Atacama.
Ils ont réussi à avoir de l'eau. Ils ont créé des aqueducs qui sont encore utilisés 2000 ans après. Ils sont toujours utilisés par les paysans. Ils fonctionnent toujours. Ils ont récupéré l'eau depuis les montagnes, depuis les Andes. Ils ont fait des systèmes de canaux. Ils arrivent à nettoyer ces canaux automatiquement aussi. Ils évitent que l'eau ne coule trop vite.
On sent que vous êtes passionné.
Sont toujours utilisés de nos jours, surtout. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de nouveau.
Ça, c'est encore rien. Ils ont aussi fait des pyramides. En plein milieu du désert, ces pyramides, le site de Kawashi est encore à ses débuts, ça fait une trentaine d'années seulement qu'il commence. Ils ont déblayé une pyramide, il y en a sur 25 km², on en a déjà prévu.
On sent pour ça que vous êtes fasciné par l'archéologie. Mais vous aussi, Amandine, hein, parce qu'il y a une photo de vous qui tenait dans les mains une autre poterie Nazca.
Oui.
Vous la tenez vraiment comme si c'était un enfant. Ces photos aussi, on les mettra sur la page de l'émission. Nous sommes au Pérou, en compagnie de notre couple de voyageurs, Amandine et François. Pour aborder la face cachée de la destination, il va falloir vous faire violence, parce que je sais que vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais aussi l'amoureux du pays, donc il va falloir se faire violence pour parler de la face cachée peut-être du Pérou. Alors selon vous, y en a-t-il déjà une de face cachée au Pérou ?
Il y a toujours, dans un pays il y a toujours des choses qu'on aime et qu'on aime moins, mais effectivement on a eu une grosse déception quand on est allé à notre dernier voyage au Pérou, c'était pour le lac Titicaca.
Ah.
Donc on n'avait pas du tout préparé, donc c'est connu qu'il y a des endroits au lac Titicaca qui sont vraiment très très touristiques et qu'il y a des civilisations qui sont moins intéressantes ou des îles moins intéressantes, etc. Donc on est arrivé là-bas complètement novice, sans se renseigner du tout, et on est complètement tombé dans le panneau.
Le panneau, François, c'est-à-dire ?
Mais tout d'abord, on pense aux îles flottantes, première chose.
Mais on ignore un peu, la plupart des gens ignorent qu'il y a donc des îles fabriquées à main d'homme,
à
l'origine, et qui sont flottantes, donc
et
dérivantes.
Mais dérivantes et pas dérivantes en même temps. Elles étaient attachées au sol avec un système assez ingénieux, d'ailleurs d'encre, mais qui est pas vraiment une encre, mais l'équivalent d'une encre.
D'accord, c'est en roseau, plus ou moins.
C'est ça, oui, c'est ça, c'est une sorte de roseau. Et ils ont réussi à construire des ces îles, ils vivent là-dessus. C'est un peuple qui a été rejeté et qui a décidé de s'exiler sur le lac Titicaca. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette civilisation a complètement disparu. Pourtant, les îles sont toujours là, étonnamment. Très étrange, en fait, ces îles ne sont pas les îles originales. Ce sont des îles qui ont été construites par un peuple qui est encore vivant actuellement, le peuple Aymara, mais qui n'ont rien à voir avec le peuple d'origine. Et ces îles sont construites beaucoup plus près, par rapport à là où elles étaient avant, de la côte, pour pouvoir ramener les bateaux de touristes.
Donc vous, petite déception, le lac Titicaca, hein, qui signifie le puma de pierre, avec ces îles flottantes qui sont un petit peu artificielles pour vous, vous déconseilleriez à des voyageurs de vous y rendre. Alors justement...
En tout cas, de s'y rendre sans choisir correctement son île. Il y a des îles, je pense, qui sont encore préservées.
D'accord. Bon, on laisse la porte ouverte, alors voilà. On laisse une chance à nos îles flottantes du lac Titicaca. En 2009, vous étiez au Pérou, vous étiez à deux et complètement amoureux du pays. On sent tout à l'heure votre œil briller, François, lorsque vous parliez d'archéologie et des différentes civilisations. Autant là, sur le lac, c'est beaucoup moins... c'est pas votre truc, quoi. Vous avez tenu un autre type de blog en 2012-2013. C'est un blog qui est justement censé donner les bons plans, les choses beaucoup plus concrètes pour réussir à éviter les différentes faces cachées de cette destination. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site pour justement réussir le Pérou, par exemple ?
Au niveau de mes conseils pour le Pérou, une des premières choses que je conseille aux gens, surtout quand ce sont des Occidentaux, donc on a l'habitude, nous, quand on prépare un voyage, de vraiment le préparer. On sait où on va loger, à la limite ce qu'on va même manger, les restaurants, les bonnes adresses et tout ça. Donc la première chose que je conseille, c'est d'oublier tout ça, d'oublier l'organisation. Rien ne se passe comme prévu. Jamais.
Un trajet de bus de 8 heures peut en prendre 26 sans prévenir.
C'est ça, un trajet, oui c'est ça, les dizaines d'heures de bus, c'est courant quoi là-bas. Et ça c'est pour faire quelle distance par exemple ?
Mais là-bas on ne parle pas vraiment de distance, on peut en parler de distance, mais dès qu'on est dans la montagne c'est difficile de parler de distance, parce qu'une ville va se trouver à un endroit, à une montagne, et une autre ville à une autre montagne, la distance peut faire 20 km à vol d'oiseau, mais ça peut prendre 8 heures parce qu'il faut descendre la vallée et la remonter.
C'est ça. Mais quand on vous dit 8 heures et que ça en prend 26, ça pose 2-3 petites questions du style qu'est-ce qu'on mange et tout ça, non ?
Mais le coup là des 8 heures qui sont devenues 26, c'est vraiment une situation spéciale. On était justement parti de Chiclayo, on avait rencontré cet archéologue avec la lampe torche dans le musée.
Indiana Jones,
aller,
oui.
Voilà, pour aller à Chachapoyas, qui est pas très connue et qui est une ville dans la montagne où il y a une cité inca, des sarcophages. J'ignorais qu'il y avait des sarcophages en Amérique latine, donc voilà, ça nous a intrigués. On est parti là-bas et pour le trajet du retour, on a eu la malchance d'avoir un énorme glissement de terrain. C'était la saison des pluies.
Aïe.
Pas de chance. On est resté coincé, donc effectivement, ça a duré 26 heures, mais très vite, il y a un petit commerce qui se met autour des bus avec du maïs ou des bouteilles d'eau, ou des choses comme ça qui sont à disponible.
Le climat au Pérou peut effectivement être parfois un petit peu, plombant. Vous dites que c'est la saison des pluies. Vous étiez quand, en 2013 ?
En janvier.
C'est toujours au mois de janvier qu'on a été les deux fois, c'était au mois de janvier.
D'accord, donc deux fois la saison des pluies, ça ne vous a pas dérangé ça
ne
vous
a pas dérangé pour autant. Vous savez qu'il y a des risques de glissement de terrain, mais d'un côté, il fait plus vert, il fait moins chaud, il y a avantage et inconvénient.
Avec la saison des pluies au Pérou, on peut quand même voyager partout, mais ça limite parfois un petit peu certaines destinations. Par exemple, la deuxième fois, on est allé dans la jungle, ce qu'on n'avait pas osé la première fois, vu que François est allergique aux moustiques, on avait eu quelques réticences. Donc
donc pas l'avion, pas les moustiques, ça commence à faire beaucoup, François, faites un effort.
J'ai pris 5 ans pour le convaincre d'aller dans la jungle, mais on y est allé.
Sur votre blog, un sac sur le dos qui donne justement les bonnes astuces pour réussir un voyage comme celui-là, vous dites qu'il y a 9 pièges pour le couple en voyage. Alors on va peut-être pas les passer tous en revue, mais quels sont les pièges principaux pour le couple de voyageurs ?
J'essaie de me remémorer mon article. Mais je pense qu'un des pièges, c'est de ne pas préparer ce voyage ensemble. Donc quand je dis ne pas préparer, juste avant, ça, on va dire que je me contredis. Mais ici, l'idée dans la préparation du couple, c'est plutôt préparer quelles sont les attentes respectives de chacun, les images qu'on a en tête. S'il y en a un qui s'imagine qu'il va faire plein de sport, aller courir tous les matins, et que l'autre qui s'imagine faire niente, c'est déjà mal parti.
Ça part mal. Donc ça, piège numéro 1. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a 9, vous allez me dire. Mais on peut peut-être en passer encore un ou deux en revue.
Je pense aussi à la communication sur place. On aura tendance à peut-être minimiser certaines choses, à ne pas en parler directement, et puis à accumuler, ça c'est un risque courant dans les disputes de couple, tout d'un coup la goutte qui fait déborder le vase et on ressort tous les reproches.
Et alors vous dites, François, qu'il ne faut pas se tromper, le voyage n'est pas une thérapie de couple, c'est plutôt une loupe qui grossit les petits défauts.
C'est ce qui ne se passe pas spécialement bien... À la maison, ne faire qu'on s'amplifie une fois en voyage. On reste quand même 24 heures sur 24 ensemble, faut pas l'oublier. Mais par contre, les bons côtés aussi. Donc tout s'amplifie, pas seulement le mauvais, heureusement.
Destination ailleurs, sur la première.
Amandine et François, vous nous emmenez en terre inca au Pérou cet après-midi et nous vous suivons avec plaisir dans Destination Ailleurs. Deux voyages déjà à votre actif au Pérou en 2009 et en 2013. Le Pérou vous a comblé au point de vous convaincre de repartir bientôt pour une troisième fois. Alors question, qu'est-ce que vous allez chercher ensemble là-bas de si typique ?
Au niveau typique, il y a d'abord les couleurs qui marquent, les tissus, l'artisanat. C'est vraiment un monde très coloré, surtout quand on vient de la Belgique où tout le monde est quasiment en noir et qu'on arrive là-bas. C'est déjà rien que ça, ça fait plaisir. Mais c'est aussi un pays où on mange très bien. L'estomac sur pâte, François ne me contradira pas.
Et voilà, démasquer François.
Super. Oui, donc en fait, l'avantage du Pérou, c'est que j'en parlais tout à l'heure, il y a différents milieux, donc il y a la mer, il y a le désert, il y a la montagne, il y a l'Amazonie, la jungle. Et chaque région, aussi bien au nord, au sud, et suivant le climat et le terrain, a ses propres spécialités culinaires. Et ça, donc c'est vraiment une foison de...
Un éventail de
saveurs, et c'est magnifique.
On est parti, qu'est-ce qu'on mange au littoral alors ?
Alors là, il y a le ceviche, c'est une spécialité vraiment à base de poisson, spécialité péruvienne tout à fait reconnue.
Ah, il y a toujours aussi à l'apéro, comment ça s'appelle ce truc qu'on sert pour piquer juste avant?
Oui, l'ajillo, mais ça n'a...
Si, c'est très piquant.
Qu'est-ce que c'est? Ne vous battez pas.
Mais en fait, quand on va au restaurant italien, on reçoit du pain avec un petit peu de beurre. Ben là, c'est la même chose, du pain avec de l'ajillo, ça... À base de piment, d'oignons, de persil et autres.
Je me suis fait avoir une fois.
Ça arrache la gueule.
Non, c'est par toi que je me suis fait avoir, parce que soi-disant ça
un
pique.
Un peu
tout
ambiance réfort comme
et,
ça, non?
Oui, et seulement il m'avait fait croire que celui-là piquait pas du tout, et mm-hmm. Non, c'était pas le cas. Ça pique très fort.
J'ai bien rigolé.
François, vous expliquez que la cuisine a un style particulier et que ces styles sont plutôt rangés par région, et ces régions sont plus ou moins verticales. On a le littoral, les Andes, l'Amazonie. Et qu'est-ce qu'on mange par exemple dans les Andes?
Je vais être un peu vulgaire, on mange des couilles.
Oula, oui.
Alors, les couilles, en fait, c'est le nom espagnol pour le cochon d'Inde.
D'accord. Okay.
Ce qui est très particulier, c'est qu'ils vivent avec leurs cochons d'Inde partout par terre, qui sont dans la maison.
Ah, et d'accord, puis, voilà, c'est UY, d'accord.
Tout à fait. Oui.
D'accord, ok. Mm-hmm. Et donc, ils font copain-copain avec le.
Voilà. Et puis, ils finissent en brochette.
D'accord, c'est une façon de s'exprimer également. C'est bon?
On n'a pas osé goûter.
D'accord.
Voilà. On avait un peu pitié pour ces pauvres petits animaux qui avaient l'air tellement mignons.
D'accord. Et dans l'autre région, alors dans l'Amazonie, qu'est-ce qu'on mange?
Alors qu'on était en Amazonie, on avait goûté le juanes. C'était comme le chanteur, mais c'était une espèce de feuille de bananier ou à l'intérieur.
Des feuilles, évidemment. Voilà. En Amazonie, évidemment.
Tout à fait. Et à l'intérieur, c'était du riz, une espèce de pâte avec du riz. Très bon.
D'accord. Et François, vous n'avez pas l'air convaincu par le juanes?
Ah si, j'ai tout mangé. Mais quand je mange, je ne parle pas.
D'accord. Très bien. Vous m'avez parlé du lomo saltado. Qu'est-ce que c'est ça?
Eh bien, en fait, c'est un peu le plat, je dirais, le steak frites salade version péruvienne. C'est le plat qui est qu'on trouve partout. C'est du porc qui est coupé en lamelles. Un peu comme on dirait de chez nous la viande pita. Voilà.
D'accord.
Et ça va servir avec des frites et du riz. Ça ne dérange pas de mélanger le tout comme ça. Et c'est cuisiné dans le jus avec les poivrons. C'est vraiment succulent.
D'accord. On est dans l'aspect typique de votre voyage au Pérou, Amandine et François, dans Destination Ailleurs sur la première cet après-midi. On vient de parler cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? En ce qui vous concerne, François.
Ah, moi, je suis tombé amoureux de la boisson Inca Cola. Alors, déjà, visuellement, c'est choquant. On a l'impression d'avoir une bouteille de pétrole devant soi. C'est jaune fluo.
Ah, d'accord. C'est pas du tout comme
l'autre.
Ah non,
l'autre. C'est pas du d'accord. tout. Non, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça goûte, on va dire, les bonbons des petits ours en gomme. Voilà, ça goûte, c'est assez particulier. C'est très sucré.
Un petit goût d'enfance.
Voilà, exactement.
C'est mignon. Et pour vous, Amandine?
Moi, ma boisson, c'est quand on est dans les Andes, particulièrement, c'était le thé de coca. Parce que la feuille de coca à mâcher, c'était pas trop mon truc, mais hanté, ça passait.
D'accord. Nous sommes donc dans vos souvenirs typiques du Pérou. Il y a des objets sur la table qui sont typiques eux aussi du Pérou.
Fait.
Et parmi ces objets, il y a une espèce de croix rouge et ocre qui est typique de quoi alors?
C'est la croix andine en fait. Donc au niveau spiritualité et croyance, ce qui est très particulier quand on arrive là-bas, c'est qu'il y a un beau mélange entre, on va dire, le catholicisme qui était importé par les conquistadors, mais ils ont aussi gardé toute leur croyance ancestrale. Et pour eux, la trinité andine, la croix andine, c'est vraiment un symbole important. Donc il y a toujours ces trois éléments qui sont représentés, que ce soit terre, eau, feu, ou que ce soit à travers les animaux.
Terre, mer, c'est la trinité dans toute sa splendeur.
D'accord. Les conquistadors qui allaient chercher de l'or au Pérou, vous avez trouvé l'or péruvien. C'est un autre objet qui est sur la table et qui n'est pas du tout jaune.
Non, tout à fait. Pour eux, l'or inca, comme ils disent, c'était des coquillages en fait.
Et donc François est en train de manipuler un collier qui est rouge.
Qui est rouge et en fait ce sont des petits fragments de coquillages. C'est un coquillage extrêmement difficile à trouver. On en trouvait dans le nord du Pérou et c'est suite à ça qu'on a créé le chemin de l'Inca. Le chemin de l'Inca, en fait, parcourait tout le Pérou spécifiquement pour pouvoir ramener ce coquillage le plus rapidement possible. C'était l'autoroute de l'empereur pour ramener ces coquillages Et donc, on en faisait des parures de bijoux, etc.
D'accord. C'est uniquement ornemental, ce n'était pas une forme de monnaie?
Non, pas du tout.
Bien que ce soit extrêmement rare, et comme on dit que généralement, ce qui est rare est cher, ça pourrait servir de monnaie, mais là, pas du tout. C'est juste pour faire joli.
On peut le troquer après, mais...
Nous sommes toujours au Pérou cet après-midi dans Destination Ailleurs, et on est bien entouré puisqu'on est avec Amandine et François, qui sont nos guides de l'après-midi, qui vont nous livrer quelques petites astuces pour réussir une destination comme le Pérou. Il faut dire qu'ils ont déjà fait deux fois le Pérou et qu'ils s'apprêtent à le faire une troisième fois bientôt, petit vénard. Et donc, Amandine... C'est quoi un bon plan pour réussir le Pérou, par exemple ?
Un bon plan, c'est prendre son temps, justement. Ne pas se mettre des ambitions trop grandes. Donc nous, on a fait d'abord la première partie du Nord et puis le Sud. Et je pense que c'est une bonne manière de faire. Parce que vouloir voir tout le Pérou en un coup, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop. Donc voilà, limiter ses ambitions peut-être dès le départ. Ça serait un premier conseil. Et sur place, prendre le temps aussi. Parce que dans les Andes, l'altitude est quand même assez importante. Quand on vient de la côte, le choc peut être... on peut souffrir du mal des montagnes, des maux de tête, se sentir vraiment... pas bien du tout. Donc c'est important de prendre le temps sur place pour s'acclimater à l'altitude.
C'est clair qu'on a parlé de plusieurs endroits à travers le pays, du nord au sud. Vous avez fait les incontournables en 2013, Machu Picchu, Cusco et autres. Cusco, vous y êtes resté 10 jours, un peu plus de 10 jours.
Tout à fait.
Et vous dites, on n'a pas tout fait.
Non, c'est vraiment énorme. Il y a énormément de choses à voir sur place, surtout quand on aime l'archéologie, mais même au niveau des paysages, c'est splendide.
Quoi par exemple, François, à Cusco ? Un incontournable ?
Le Machu Picchu, ouais, c'était facile.
Non, mais la vallée de l'Inca, ça c'est très connu. Il y a beaucoup de sites comme Ollantaytambo, que François a pris des semaines à savoir prononcer correctement.
C'était super chaud. Ollantaytambo.
Non, c'est foutu.
Ça va pas.
Bon, ça sera pour Amandine alors.
Oui. Donc Ollantaytambo, c'est une des dernières cités Inca aussi qui est à voir vraiment dans la...
C'est assez impressionnant parce qu'en fait, au sommet de la cité, on peut voir des blocs de pierre qui n'ont apparemment jamais bougé de là, mais ils ont été taillés, mais on estime leur poids à 350 tonnes. Donc, ils viennent de la montagne en face, donc ça a descendu la vallée, c'est remonté et ça a été taillé après.
Est-ce qu'on sait comment ?
Mais voilà, gros mystère.
D'accord. Cusco, il faut rappeler que c'est quand même la capitale de la civilisation Inca.
Oui, tout à fait.
Qui a donc une concentration d'immeubles, enfin de bâtiments, en tout cas de cette civilisation. Et donc, ça doit être assez splendide. Il y a un autre bon plan, j'ai envie de vous dire, pour vous faire plaisir, ça, pour réussir le Pérou, c'est unsacsurledos.com.
Oui, donc le blog qu'on a développé suite à ce deuxième voyage au Pérou. J'avais très envie de partager plus que simplement notre carnet de route. Donc, sur ce site-là, il y a pas mal de conseils. Effectivement pour voyager.
Autant le blog de 2009, c'était pour papa, maman, les copains et tout ça, avec Private Joke et compagnie. Autant celui-ci, c'est carrément le canif suisse du voyage au Pérou.
C'est un petit peu ça. Et au Pérou et ailleurs, parce qu'on on partage toutes nos destinations. Là, on revient de la Jordanie, par exemple. On a partagé notre premier coup de cœur qui est Petra. Quelques mois avant, on était au Cambodge. Donc voilà, c'est un petit peu partout où on passe.
Bande de petits vénards. Alors, on vous a fait beaucoup d'appels du pied en vous disant, tiens, votre blog, c'est le mode d'emploi du voyageur en couple, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est un des éclairages que vous donnez sur le voyage. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est possible de voyager en couple et de revoyager en couple et de rester en couple. Donc ça, c'est merci. François, vous allez retourner quand alors au Pérou ?
Eh bien, on repart le 29 octobre. C'est pour bientôt.
D'accord.
Et là, on est parti. En fait, c'est une année sabbatique qu'on va prendre. On
part carrément.
On part pour un an et on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. On arrive au Pérou, puis on verra bien là où le vent nous mènera.
D'accord. Mais vous arrivez à Lima.
Voilà. On arrive à Lima.
On arrive à Lima, on ne sait pas plus.
Enfin, on a des idées, mais ça reste très hypothétique. On aime vraiment pouvoir se laisser les possibilités sur place, selon les rencontres, le bouche à oreille ou les envies du moment de bouger notre itinéraire.
D'accord. Mais de toute façon, on pourra peut-être vous suivre direct live sur unsacsurledos.com et aussi sur une autre idée que vous avez eue, qu'elle est bonne, c'est faitafoto.com.
Ah oui, faitafoto, c'est un jeu de mots parce que ce n'est pas vraiment un rapport avec faire la photo. Ça s'écrit comme le fromage grec, feta, mais ça n'a rien à voir avec la feta non plus. C'est pour F et A, François et Amandine.
Oh,
et là, on partage nos plus belles photos.
On a découvert que certains de nos amis nous appelaient les feta, donc on a trouvé ça terrible.
C'est un hommage à eux.
Et quoi, tous les voyageurs peuvent poster leurs photos
que vous. C'était que nous.
D'accord. Parce qu'il n'y a que vous qui faites des belles photos.
Voilà, exactement. Ou pas.
D'accord. On a une habitude dans Destination Ailleurs pour un petit peu ponctuer la conversation qu'on a sur la destination du jour, c'est d'aborder les 5 sens du voyage. Donc comment vos 5 sens ont imprimé votre cerveau de ces expériences au Pérou. Donc question, François, oui. Quel parfum associez-vous au Pérou?
Alors,
François Bug.
Oui, oui, les grillades. Alors, les grillades. J'avais préparé la question, mais j'avais oublié ma réponse. En fait, on voit souvent
à l'extérieur, peut-être.
À l'extérieur, voilà. À l'extérieur des restaurants, des viandes qui grillent directement au barbecue. Et c'est une odeur. Ce sont des viandes différentes de chez nous, donc ça a une odeur complètement, vraiment spécifique et différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir.
Du lama, par exemple.
Du lama.
Ça sent quoi le lama?
Ça sent quoi?
Oui,
ça sent bon.
Oui,
je ne sais pas.
Ça ressemble à rien d'autre.
Ah, mais il faut aller jusque là-bas pour tester.
D'où l'expression, ça sent le lama.
Ça sent le lama.
D'accord. Et vous alors, Amandine?
Ce serait plutôt l'odeur de la coca. En fait, quand on était au Pérou-Bolivie, on s'est rendu compte qu'il y avait une odeur très prégnante partout. Les gens sentent la coca à force de la chiquer en permanence. Et on a mis plusieurs semaines à comprendre d'où venait l'odeur.
Donc j'imagine que si je vous dis un goût, vous allez me dire la coca.
Non. Mais je vais varier un petit peu. Mon plat préféré là-bas sur place, c'était l'arroz à la cubana. C'était du riz avec un œuf et une banane. Et c'était trop bon.
Oula, ça fait panade un peu, non?
Mais c'est pas en panade, mais c'est super bon.
D'accord. Et pour vous, François, un goût typiquement péruvien?
Le ceviche.
Ceviche, donc c'était le plat
à base de poisson
à la côte. Un son peut-être, Amandine?
La flûte de Pan.
Évidemment.
Je t'ai battu de vitesse.
Et là, François est furieux, évidemment. La flûte de Pan, elle condore pas ça. Et pour vous, alors François, ce serait quoi?
Les klaxons de voiture.
François n'est plus là.
François vient de quitter le studio.
Les klaxons de voiture, en fait.
D'accord.
Surtout dans le nord du Pérou, la ville de Trujillo, c'était assez incroyable. Il y avait des petites voitures, toutes petites, des taxis, elles sont jaunes, et il n'y avait que ça dans toute la ville, il n'y avait personne dedans, il n'y avait pas de clients, et ça faisait que klaxonner pour essayer d'avoir des clients, en fait, et attirer D'accord. l'attention.
Vengez-vous, François, une image liée au Pérou. S'il vous plaît, François.
Je suis perdu.
Je prends la main. Vas-y. Moi, c'est depuis le sommet du Huayna Picchu, avec la vue sur le Machu Picchu.
C'est ça, c'est l'autre pointe rocheuse de laquelle on aperçoit parfaitement le Machu Picchu. Bravo. Et la question piège sur laquelle tout le monde bug, surtout vous, François, qui buguez pas mal cet après-midi en tant qu'ingénieur en informatique. La texture.
Oui, alors je vais dire les tissus. En fait, les tissus, les couvertures, les nappes, etc. sont très colorés, sont à base de laine, différentes laines, que ce soit aussi bien d'alpaga, lama, etc.
Merci beaucoup Amandine et François, et bon voyage prochainement au Pérou. Bon vent à vous. Nous sommes certains que votre blog est le genre d'outil qui sera très utile aux voyageurs en herbe et dans l'âme qui nous écoutent. Vos objets, vos musiques, vos bons plans et puis les liens vers votre blog de voyageurs amoureux, nous les épinglerons dans notre carnet de voyage sur la page de Destination Ailleurs. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Merci à Anouk Gauvin pour la mise en onde. Tout de suite, c'est Charline et Alex pour le 50-10. Portez-vous bien, que vous soyez ici ou ailleurs.
Podcast La Première.